On estime qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui n'a pas d'adresse mail va avoir nettement, je crois que c'est deux fois plus, mais je ne suis pas sûr, de difficultés à retrouver un emploi.
Oui, j'ai vu ça. Oui, non, mais ça, ça me
donc ça, ça donne immédiatement une vision. Alors c'est une vision fausse, parce que est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ou est-ce que c'est parce que ils sont pauvres et donc accessoirement n'ont pas d'adresse mail et sont sur des professions très difficiles qu'ils ne trouvent pas d'emploi? Je ne sais pas quel est le lien.
Il y a un vrai souci pour les chômeurs de ne pas avoir Internet. Ils sont pénalisés s'ils n'ont pas accès à Internet, donc e-mail et tout, parce qu'on leur, on exige de leur part, d'aller régulièrement sur les offres. Alors, c'est le cercle infernal pour certains chômeurs qui sont dans des petites villes. Si tu n'as pas, la, j'allais dire, un accès Internet, en plus, c'est payant, bon, voilà, il y a un accès. Si tu n'as pas d'accès Internet, tu ne peux pas faire la preuve que. Et on leur demande ça de plus en plus. C'est vrai que c'est un vrai souci.
C'est quelqu'un qui ne savait pas déchiffrer. À l'époque, il ne savait même pas déchiffrer un mot, ne pouvait même pas payer ses impôts, donc c'était extrêmement complexe. Quelqu'un qui ne pouvait pas lire, ce qui est plus compliqué, si je suppose, de comprendre un texte structuré, etc., c'était quelqu'un d'handicapé. De la même manière, pour moi, savoir utiliser un ordinateur, c'est le parallèle de déchiffrer. Ça permet, enfin, c'est de la survie. Comprendre les enjeux numériques, c'est des choses plus compliquées, parce que c'est un monde qui change, c'est un mode de fonctionnement qui change. C'est des choses qui sont, j'allais dire compliquées, non, différentes. Et il y a très clairement une tranche de la population plutôt majoritaire qui n'aura pas cette formation-là. Et à la vitesse à laquelle les choses évoluent, c'est vital de former les adultes. Quelqu'un qui, à l'heure actuelle, à 45 ans, n'a pas d'adresse mail et se retrouve au chômage, il a un handicap.
Quand on s'équipe chez soi, voilà, le coût. Parce qu'il y a, le, il y a l'achat du matériel, j'allais dire, et puis après, il y a le coût de l'abonnement. Hein. C'est, avant, on avait le téléphone, bon, c'est quand même... si ça devient, on va dire, un usage obligatoire, la question se pose quand même du coût. Hein. Si c'est un usage obligatoire... Pour l'exemple du chômeur. Alors après, moi, j'entends bien que vous dites pour les adultes, hein, parce que je vois bien pour moi-même qu'il y a besoin... mais la question, c'est comment? C'est-à-dire que moi, j'ai pas de souci pour dire il faut arriver à le plus possible, offrir ça gratuitement. Alors, est-ce que c'est justement par le biais des assos de quartier? C'est-à-dire que... est-ce que c'est... Bon, là, je prends pour les adultes. Hein. Est-ce que si... est-ce que c'est dans le cadre de la formation professionnelle?
On a un projet de former tous justement les médiateurs, les animateurs des EPL à un seul leader. Ils ont pensé à l'aspect formé à des usages pratiques, ils n'ont pas pensé à former à autre chose. C'est cette autre chose qui est justement intéressant. Je vais enchaîner pour qu'on puisse voir. C'est une première rencontre et puis on comprend vos questions, puis on avance. L'autre chose dont vous parlez, justement, c'est la culture, qui est similaire et qui pourrait justement permettre aussi. C'est pour ça que de faire comprendre ça aux jeunes. Ça veut dire qu'actuellement, il y a de plus en plus de musiciens, par exemple, qui commencent à mettre leur musique plus sous des licences, plus à la SACEM, mais ils mettent ça sur des licences comme par exemple Art Libre. Actuellement, il y a de plus en plus d'albums. Ça commence à vraiment à faire un grand nombre de musiciens, toutes catégories. Ça va de la musique classique à la musique rap, etc. Il y a aussi des plasticiens qui sont dans une nouvelle démarche. Et beaucoup de vidéastes et de plus en plus de réalisateurs. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces œuvres qu'on a le droit d'échanger, donner à ses amis, ouvrir, sont très peu référencées. Il y a des sites web spécialisés qui le font, souvent avec des bénévoles. On s'aperçoit par exemple que dans des lieux publics, qui sont les bibliothèques, qui sont des lieux à forcerie, on pourrait garder la mémoire ou commencer à faire découvrir au public. Bah, souvent, ils achètent des auteurs connus, mais il y a peu de travail qui est fait à l'heure actuelle pour aider ces artistes à se faire connaître et à se faire référencer. Est-ce que vous pensez, vous, que si vous arrivez donc au pouvoir sur la municipale 2008, ben ça pourrait être une mission que vous confierez aux bibliothèques de commencer à référencer les œuvres et les artistes qui font ce choix-là de le mettre en art libre?
Pour l'instant, le problème, c'est que l'art libre ou le Creative Commons, etc., sont utilisés comme moyen pour se faire connaître, pour pouvoir, après, être rémunéré en tant qu'artiste normalement. Et ça, pour le coup, c'est quand même une problématique maintenant. C'est-à-dire que le libre.
Et sur Paris, il y a très peu de lieux de diffusion qui, justement, essayent de faire un travail pour promouvoir ces artistes-là et les soutenir. Et en fait, nous, on pense qu'à l'heure actuelle, la musique, par exemple, beaucoup de musiciens, ou d'ailleurs c'est ce qu'on préférait, vivent en produisant des spectacles plutôt que sur un album qu'ils ont fait dans les années 50 et qu'on ne voit plus jamais après. Donc l'idée, c'est plutôt d'encourager la scène vivante. Et est-ce que vous seriez justement partie prenante que la direction des affaires culturelles favorise justement à ce qu'il y ait des scènes ou des espaces de diffusion où des artistes qui s'engagent dans cette voie-là puissent se faire connaître?
Même moi, bêtement, quand j'étais ado, quasiment tous les soirs, j'allais, il y avait une salle de concert, un truc que je connaissais pas, etc. Et la plupart des salles de concert que je connais, ont disparu. Les grosses restent, mais il y en a plein qui ont disparu et qui disparaissent. Il y en a qui se recréent d'ailleurs dans tel et tel endroit, mais qui ne tiennent pas, etc. En partie parce qu'elles ne sont pas soutenues localement par les municipalités, etc. En tant que lieu de vie artistique. Et un lieu de vie artistique dans un quartier, c'est aussi un lieu de vie économique, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu, etc. Le deuxième truc, c'est qu'aussi récemment, ce qui se faisait beaucoup sur Paris, c'est que les artistes qui trouvaient pas de lieu pour se produire dans des lieux officiellement déclarés lieux musicaux, allaient jouer dans des bars. Mais maintenant, ça va être interdit, l'année prochaine aussi. Donc là, on va être vraiment face à un vrai problème. C'est-à-dire que les musiciens, en l'occurrence, il y a une raréfaction des lieux où ils peuvent se produire, sans même parler de la réforme de l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus être indemnisés quand ils sont au chômage, ils ne vont plus avoir de lieu où jouer, de lieu public, de lieu public ou même privé, de lieu officiel pour jouer, de salle de concert, parce qu'il y en aura de moins en moins, à part les grosses qui vont continuer à maintenir Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Enrico Macias, etc., et Carla Bruni. Et puis les lieux qui restaient avant, les bars, ça va être interdit aussi.
Pourquoi ça va être interdit?
C'est la continuité, ça va être interdit pour en partie. D'abord, nuisance sonore, c'est un peu la même chose que sur les cigarettes. En partie pour les questions de nuisance sonore. Donc, soit les bars vont pouvoir se mettre aux normes et ça coûte une telle fortune que. Etc. Et le deuxième truc, c'est que ça va être interdit aussi dans le cadre de la réforme de l'intermittence du spectacle, puisque les artistes pouvaient être rémunérés avant par. Un truc en gros qui permettait que les employeurs qui ne sont pas des employeurs d'artistes déclarés, donc un bar, un restaurant, etc., guichet unique d'embauche, va être supprimé, les payent sous la forme d'intermittent. C'est-à-dire que quelqu'un qui jouait dans un bar, le bar il ne peut pas le payer en tant qu'intermittent parce qu'il ne vend pas d'alcool. Avec ce truc-là qui existait, guichet unique d'embauche, il pouvait être payé en tant qu'intermittent. Donc ça arrangeait tout le monde, c'est-à-dire qu'il était payé, il jouait, ça ne faisait pas perdre son régime d'assurance chômage. Ça, ça va être supprimé aussi. Donc.
D'accord.
L'autre question sur la qualité, c'est aussi les contenus des bibliothèques. Ça veut dire qu'il paraît très important, toujours dans cette idée de diffuser la connaissance, que les bibliothèques soient numérisées, mises en accès libre, et qu'il y ait un travail pour qu'il y ait de plus en plus de bibliothèques numériques, et d'avoir une réflexion justement sur les fonds documentaires de la ville de Paris pour qu'ils soient en accès libre.
Oui, enfin sur la mise à disposition de la bibliothèque. Y compris au niveau archives, mais aussi au niveau que les bibliothèques, il n'y a pas simplement un rôle de réceptacle, enfin de lieu où on vient, mais y compris un rôle de moteur dynamique, notamment par exemple sur les artistes, même plasticiens ou musique, etc., qui se mettent en art libre.
Il faut penser différemment, la bibliothèque, les médiathèques, parce que pour pas que ça soit on consomme de chez soi, puis que ça s'appauvrisse en plus si t'as pas d'initiative. Faut réfléchir aussi à une sorte d'interactivité aussi.
C'est comme ça qu'on revient un peu sur la première idée sur comment sensibiliser tout le monde aux nouvelles technologies. Ça veut dire on commence à être sur des questions de circulation des savoirs, commence à être des questions à un moment donné de production et comment des contenus se modifient ou ne se modifient pas à travers des choses simples qui sont peut-être la musique. C'est plus facile d'expliquer à un enfant par exemple qu'on peut prendre une musique, la modifier, que la musique comme une partition, elle a une code source, comment on pourrait avoir le projet de rendre libre toutes les partitions parce que actuellement ça coûte très cher au conservatoire, de façon à pouvoir modifier la musique, mais du coup on part d'une source, donc on est sur quelque chose où il y a des analogies, sur des objets de connaissance, mmh. où après bah, les enfants peuvent comprendre du coup les enjeux et du coup voir à un moment donné comment on peut évoluer.
Tous les échelons municipaux, quelles que soient les politiques municipales menées, il y en a qui vont aller plus loin. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement d'aller beaucoup plus loin dans ce qui est fait, que ce soit sur les lieux libres, sur la migration, sur etc. etc. Mais il y a un échelon qui, à un moment donné, va bloquer, qui est l'échelon européen. Et malheureusement, pour le coup, en l'occurrence, Bertrand Delanoë, qui n'est pas député, mais il a annoncé qu'il soutenait, qu'il aurait voté le récent mini-traité constitutionnel. Et dans la construction européenne et le mini-traité constitutionnel tel qu'il est, il y a plein de trucs qui vont directement à l'encontre des logiciels libres. Enfin, bon, je ne vais pas citer toutes les directives UCD, et près de deux, voire bientôt trois maintenant, etc., etc., qui vraiment vont à l'encontre de tout ce que, y compris des municipalités, projet municipal que nous, on porte, hein, sur l'accès au savoir et la non-marchandisation de la culture et de l'information, etc. C'est un deuxième échelon où malheureusement, là, la mairie de Paris n'a pas brillé par son... on va dire par la concrétisation de ce qu'elle défend au niveau municipal, elle défend exactement l'inverse au niveau européen.
La relation entre la municipalité et la communauté du logiciel libre, qui peut prendre la forme d'associations formalisées comme celles qui sont autour de la table là notamment, ou d'associations de fait, tout simplement de rassemblement de gens qui sont venus pour travailler sur un projet de développement logiciel libre, ou d'art libre ou autre d'ailleurs. Comment réaliser deux choses, c'est comment est-ce que vous envisagez de soutenir ces associations, ces structures du libre, et comment faire pour les soutenir, comment faire pour travailler avec elles sur les
qu'est-ce qu'attendent les différents acteurs numériques, numériques au sens large, technologiques au sens large, c'est-à-dire vraiment en premier lieu, les c'est-à-dire que ceux qui font vivre, qui font avancer, les associations, ceux qui développent les logiciels, l'art libre, etc. etc. En premier lieu, de faire d'abord une concertation, et la mairie peut s'engager aussi, y compris sur des locaux, des lieux, pour essentiellement les associations, hein, pas des entreprises. En premier lieu, mais les associations à leur permettre une disponibilité de lieux faciles d'accès, gratuits, ou avec un loyer au niveau public, on va dire, en tout cas pas trop cher, pour permettre de développer, parce que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, vous tous vous avez un vrai boulot à côté, si je caricature.
Oui.
Et je sais pas où sont les locaux de vos diverses associations, est-ce que vous avez des locaux, ou est-ce que c'est chez vous?
Pour revenir à ces communautés de... Parce qu'il y a deux choses, il y a soutenir les associations du logiciel libre, on a vu, est-ce qu'il y a des locaux, peut-être des moyens financiers, en tout cas d'avoir une volonté municipale de soutenir. Et surtout, ce qui nous intéresserait, en tout cas dans cette première échange, c'est de continuer à travailler avec vous. C'est-à-dire, on s'aperçoit bien que le niveau de technologie, c'est quelque chose de complexe.
Oui, ça.
Et à un moment donné, il y a un travail finalement d'accompagnement et il y a un travail de réflexion. On ne prétend pas, vu qu'on est venu à quatre, bon, il y a des champs d'expertise qui sont assez complexes, et on pense que c'est important de continuer cette réflexion de façon à faire que quand vous serez confronté à des choix, bah, on puisse voter en connaissance de cause, mais surtout les citoyens peuvent aussi suivre les débats. Parce que vous l'avez vu avec la loi d'Assise, souvent ça joue à une virgule, à un mot près, totalement anodin, et pourtant ça a des conséquences terribles pour beaucoup d'utilisateurs et d'usagers après finaux. L'autre aspect, c'est que le logiciel libre s'est développé sur des communautés de développeurs qui sont dans le monde entier, qui ne sont pas des associations et qui consacrent de leur temps. Des fois, il y a des étudiants, et des fois, il y a des gens qui ont envie de travailler. Oui.
Et les logiciels libres, il y en a un gros nombre qui ont été écrits par des développeurs de tous âges, parfois très jeunes, parfois quasiment retraités, qui souvent ne se sont jamais vus. Légalement, c'est même pas une association. C'est juste rien. C'est quatre personnes qui bossent ensemble, qui ont fait un projet, puis qui ont acheté un nom de domaine, puis qui ont mis ça sur un site web, et puis ça termine comme étant, ça c'est déjà vu, le logiciel de référence dans le domaine, qui peut être un domaine super light, j'en sais rien, moi, le logiciel de référence pour utiliser les webcams sur Linux. Ces gens-là se connaissent tous par mail, ils forment un groupe qui n'est pas une association, jamais ce groupe-là viendra demander une subvention à qui que ce soit. Par contre, ça a un sens de le porter. C'est-à-dire que ça a un sens de dire, pas forcément sur les gens qui développent le webcam, il y a des applis peut-être plus intéressantes, mais de dire, voilà, votre groupe qui se trouve avoir une attache à Paris, on vous invite au moins à vous rencontrer en vrai pour la première fois, à travailler ensemble, à porter, à développer, à avancer. Des associations, des groupes de développeurs qui ont un pied dans Paris, il y en a un paquet. L'air de rien, la France est très bien représentée dans la communauté du libre. Il y a quelque chose à faire émerger, une espèce de maison du libre, de structure qui permette de... La mayonnaise prend toute seule et il suffirait de touiller pour que ça fasse un truc énorme.
De la même manière, sur Paris, je vous parlais du cinéma, je sais pas comment en parler, c'est là où il y a 90% des gens qui travaillent dans le cinéma en France sont concentrés sur Paris. Bon, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas une seule subvention au cinéma sur Paris en court-métrage, en documentaire, etc. Mais pourquoi les mairies de Paris ne pourraient pas avoir sur le principe de ce qui existe en théâtre, en spectacle vivant de manière large, en musique, etc., une subvention. Une subvention à la création logicielle, évidemment plutôt la création logicielle libre, pour aider, y compris ceux qui travaillent à créer des logiciels, quel que soit le sujet, comme une bourse en fait. Et une fois que ça s'est créé, ça peut lancer aussi une dynamique conjointe avec la question du logement. Tu parlais tout à l'heure du logement des associations, ce qu'on disait, hein, tout le monde crée chez soi dans sa cuisine. Donc la question du logement, la question de la rémunération, et commencer à créer une petite économie associative qui pourrait se développer plus que simplement le travail individuel non rémunéré chez soi.
Ça crée... Non, pour le coup, c'est le vieux développeur du monde du libre qui a toujours été salarié à faire autre chose, qui réfléchit à haute voix. Ça crée un risque de précarité. Si tu fais basculer dans un monde où tu sors une bourse pour... 1 an, 2 ans, 3 ans de développement sur le soft que la mairie a jugé bien, etc. Au bout de 3 ans, t'as un chômeur.
Mais au bout de 3 ans, si d'abord t'es suivi comme
fonction, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est plus un CDI, c'est du contrat de mission ce que t'es en train de. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ce qui manque à l'heure actuelle pour que ça fasse sens, c'est pas un EPN avec 10 ordi, c'est des espaces dans les quartiers grands où les gens, les informaticiens peuvent se réunir et ont vraiment des vrais moyens pour faire l'accompagnement au projet. On peut tester plusieurs choses et où là il y a une interaction. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire en fait, en termes de réponse, avec des gens qui font vraiment de l'animation de base, mais comme ça vit sur un territoire, là il y a de l'interaction sociale et là tout d'un coup on peut faire que la personne qui vient de faire une initiation de base à un traitement de texte, comme de fait il y a des communautés de développeurs qui vont dans le lieu, et bien tout d'un coup il y a des gens qui se parlent, qui se regardent, et que tout doucement on arrive à réfléchir à comment justement en faire ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment élargir. C'est-à-dire qu'actuellement les lieux pour faire du développement logiciel hors les universités, il n'y a à peu près rien. Actuellement c'est BLinux qui héberge au ministère de la crise du logement les jeudis de 18h à 20h un cours sur le génie logiciel qui est fait par Loïc Dachary, où il y a des informaticiens qui viennent se former, parce qu'il n'y a pas de lieu pour venir avec des gens qui ont des ordinateurs portables et du wifi. Il peut y avoir un enfant qui frappe à la porte en disant « qu'est-ce que tu fais de ton portable ?» On peut lui répondre « je fais du génie logiciel ». C'est ça qui manque, c'est ça qu'on disait à un moment donné, une culture élitiste. C'était ça tous les projets culturels. C'est ça que l'idée avec le cinéma n'est pas égale, parce que finalement quand on veut mettre de l'art contemporain au cœur des cités, c'est 1000 fois plus efficace de mettre des ateliers d'artistes s'ils sont intelligents, s'ils ont une interaction avec le quartier. C'est exactement la même chose. Si on veut que les nouvelles technologies vivent dans les quartiers populaires, faut des lieux où on peut rentrer avec des gens qui sont aussi dans une démarche, dans leur production logicielle, de proximité.
Cette idée de la bourse, elle permet de faire... elle offre des pistes. Il faut faire très attention. Elle crée aussi des risques.
En cinéma ou en musique, quand tu as une bourse pour faire un documentaire ou pour faire un concert ou enregistrer un album, etc., ils ne payent pas tout. Enfin, toute la durée d'enregistrement de l'album, ils payent une partie. Après, soit tu as l'argent pour faire la suite et pour le métier, soit tu prends ça comme un encouragement.
Une dernière question. Est-ce que les têtes de liste sont prêts à s'engager à signer le pacte du logiciel libre?
Et si c'est faire développer et utiliser prioritairement des logiciels libres, des standards ouverts, oui. Voilà, ça c'est déjà un engagement. Accompagner ces initiatives en sensibilisant le logiciel libre, c'est déjà un engagement, même y compris au niveau national. Hein, sur la, voilà. Donc oui. Enfin, c'est, je pense que vous avez déjà compris.
Non, parce que moi je peux déjà signer. Sauf si on peut le faire par internet.
Ah non, non, le pack est aussi disponible en version à télécharger, à envoyer, signer. Mais c'est, si on peut
en faire un. Je peux déjà en faire un. Et puis voir avec les autres têtes de liste. Je vais voir dans la semaine.
Voilà, c'est tout, merci beaucoup.